le temps buissonnier. Le temps buissonnier partage aujourd'hui avec deux comédiens de la compagnie, Louis Brouillard pour Ça ira, fin de Louis, une création de Joël Pommerat. Alors, avec moi, donc deux comédiens, Anne Roger et David Sigicelli, et la co-directrice de la compagnie avec Joël Pommerat, Anne de Amezaga. Le temps buissonnier partage aujourd'hui avec Élodie Chaumette pour son choix de livre de la rentrée. Un petit roman et un joli petit album. Carmela et son grillon Negrito m'ont encore demandé l'hospitalité pour quelques jours à Paris. Eux qui ne voulaient jamais quitter leur petit village ariégeois et leur montagne, je ne sais pas ce qui leur arrive, ils ne cessent de monter à Paris. Carmela va encore manquer l'école, bien sûr, et en CM2, cela m'inquiète un peu. Mais enfin, apparemment, tout le monde accepte cette situation. Bien que risquant de me faire rabrouer encore une fois par mes deux petits amis, je ne puis m'empêcher de demander la raison de ce nouveau voyage dans la capitale. Eh ben, nous venons soutenir des camarades au tribunal, répondit gentiment Carmela. Mais Negrito ne put retenir son ironie habituelle à mon égard. Si tu venais avec nous au tribunal, tu comprendrais peut-être un peu mieux pourquoi nous venons de si loin. Et peut-on savoir qui est ce camarade et ce qu'il a fait pour passer en justice? Il a chanté. Chanté, commença à chanter. Oui, il a beaucoup chanté. Et très bien d'ailleurs, s'exclama le grillon en atterrissant sur le bout de mon nez. Non, je ne vous crois pas. Nous sommes en France et on ne traîne pas devant les tribunaux quelqu'un parce qu'il chante. Le visage de Carmela devint grave, son regard s'assombrit. Et pourtant, c'est bien le cas pour Alexis, me dit-elle. Et si nous allons le soutenir, c'est parce qu'il n'est pas le seul. Et que tu as raison, c'est inouï de passer deux nuits en garde à vue et d'être jugé pour avoir chanté. Alexis est étudiant en médecine, il travaille la nuit pour payer ses études. Et quand il y a des manifestations, il vient et alors, tout à coup, le cortège devient joyeux. Carmela sourit de nouveau à l'évocation de son ami Alexis. Si tu le voyais, il est grand. Très blond, il a des yeux rieurs et un sourire lumineux. Quand il chante, on dirait qu'il dirige une chorale. Il a des gestes amples et tout le monde reprend en chœur avec lui ses refrains. Carmela, d'accord, mais je ne comprends pas où est le délit encore une fois. Ah oui, d'accord. Alexis chante partout, tout le temps, avec sa guitare. Mais là, je te parle de ses chants en manif. Il n'a pas la guitare, il va devant les CRS, ou plus près, au contact quasiment, devant les Robocop, en tête de manifestation. Il a un répertoire infini. Il détourne plein de chansons, les adapte à l'actualité, aux motifs de la contestation, à ce qui se passe dans la manif. Il a un vrai talent d'improvisation. Et c'est pour cela qu'on l'a arrêté, mis en garde à vue et maintenant au tribunal. Oui, mais tu sais, moi je comprends les policiers, hein, reprit le grillon Negrito. Ah bon? Tu es du côté de la répression d'État maintenant, toi? Non, bien entendu, mais ils savent ce qu'ils font les policiers, les militaires. Les militaires, comme les religieux, savent le pouvoir des chansons. Ça donne du courage, ça transmet des idées, ça fixe dans la mémoire et ça unit un groupe pour le rendre plus fort, plus solidaire. Les militaires, les scouts, les curés, tous ont leur chant. Cet insecte avait encore une fois raison. Et aussi, reprit Carmela, toutes les révolutions ont leur chant, leur chanson. Pourquoi crois-tu que nous nous appelions Carmela et Negrito? Ah oui, je vois, oui. En fait, ils ont peur qu'Alexis entraîne les foules, leur donne envie de marcher plus longtemps, décrédibilise le pouvoir, le destitue même peut-être. Oui, c'est cela, tu as tout compris, le chant est une arme révolutionnaire et il faudrait recréer partout des chorales comme la chorale invisible. Tu sais, je vous en ai parlé de temps en temps. Oui, elle est toujours dans les manifs aussi, s'enthousiasma Carmela. Oui, mais Alexis, lui, il invente des paroles. Et ça, c'est un délit d'opinion. Oui, Negrito, je crois que tu m'as convaincue. Alors, si tu es convaincue, viens avec nous mercredi matin au tribunal à Paris et tu verras. Tu verras, on est heureux quand on est tous ensemble. Et peut-être même que nous chanterons. Ça ira, fin de Louis. Alors, il y a un petit temps, peut-être il y aura un 2 bientôt. En tout cas, on l'attend tellement on est heureux dans cette pièce qui dure 4 heures, combien ? 4h50, oui, quand même, hein, avec deux courtes pauses. Hein, qui sont courtes. Eh bien, on ne les voit pas passer. C'est, je ne sais pas vous sur scène, mais nous, alors, c'est extraordinaire. Ça ira, c'est une chanson que nous avons tous en tête, ce qui est fou d'ailleurs, parce que quand on voit les siècles, la force des chansons, c'est quand même quelque chose. Pourtant, dans cette pièce, qui nous parle des débuts de la Révolution et d'un processus sur plusieurs... ça dure combien à peu près? Un an c'est sur un an à peu près, historiquement. Hein, elle ne sera pas chantée. Il y aura de la musique, il y aura des chansons, une chanson d'Arnaud, le chanteur belge. Il n'y aura pas « Ça ira » et c'est le roi qui le prononcera. Je dis cela parce que ça montre la liberté dans laquelle, dans cette réalité historique, Joël Pommerat a écrit cette œuvre qui dure donc 4h50. Il a beaucoup travaillé sur les archives, mais j'avais envie de savoir, avec vous les comédiens, David Sigicelli et Anne Roger, chacun jouant, comme tous les autres comédiens, plusieurs personnages, si sur le plateau, vous avez eu la possibilité d'improviser. Parce que, et j'arrêterai là sur la présentation, mais il faut que les auditeurs comprennent, vous êtes à la fois sur la scène, mais beaucoup dans le public, assis, comme nous autres. Du coup, nous sommes l'Assemblée nationale. Et vous vous levez, vous marchez, vous parlez à votre voisin. Moi, j'avais deux comédiens juste devant moi. J'avais Madame Lefranc et puis d'autres qui tournaient. Et je les voyais, ils continuaient à jouer. Ils marmonnaient, ils étaient dans le truc. À tel point que moi, à un moment donné, j'ai envie de toucher Madame Lefranc et de lui dire « Allez-y, battez-vous. Allez, on est avec vous. Lâchez rien. » Parce que, bon, voilà. Mais on reviendra sur ce personnage assez ultra, hein, à l'ultra-gauche. Et elle est extraordinaire. Mais voilà, vous êtes dans la vie, dans la scène, au milieu des spectateurs, et vous parlez comme on parle dans la vie. Donc, est-ce que vous avez eu la possibilité de rajouter, d'improviser sur un canevas, bien sûr? Anne Roger?
C'est-à-dire qu'au début, comme vous dites, on a d'abord travaillé sur les archives parlementaires, parce que ce qu'il fallait, c'est qu'on ait une matière, il fallait qu'on connaisse l'histoire, qu'on connaisse les faits, qu'on connaisse les discours de l'époque. Et en fait, à chaque fois, on a improvisé à partir de, finalement, des textes de ces archives qu'on avait eu le temps de lire. Chacun, par exemple, tous les jours, on avait un discours de l'époque, entre guillemets, et puis on devait le réécrire avec nos mots.
Des mots d'aujourd'hui.
Avec donc les mots d'aujourd'hui, en défendant des idées qu'on comprenait et qui nous touchaient, des choses qu'on avait envie de défendre, même si on ne reprenait pas tout le discours.
Alors, donc, par exemple, vous, précisément, vous avez lu donc des discours de gens qui n'étaient pas connus, puisque c'est tout le début du processus révolutionnaire. Donc, on n'a pas forcément les stars, Robespierre, Danton, Saint-Just et d'autres, qui prennent la parole. On a aussi monsieur et madame, presque tout le monde.
Oui, mais c'est ça l'intérêt finalement du spectacle, c'est de mettre l'accent sur la pensée, sur les idées, et pas sur, parce que tout le monde connaît Robespierre, Marat ou Danton, et très vite en fait on rentre dans la psychologie, dans des images, et donc en fait le travail il a vraiment consisté à rentrer dans le monde de rentrer dans la pensée, de rentrer dans les idées.
Vous avez été surprise parce que vous avez lu dans des archives. Vous vous êtes dit, ah bon, on pouvait écrire comme ça, on pouvait parler comme ça à l'époque, en étant, je sais pas moi, un artisan, je sais pas, peut-être vous, hein, David Sigicelli.
C'est-à-dire qu'il y a deux formes d'archives. Il y a les archives qui sont les cahiers de doléances, en fait, qui ça sont écrits par les gens de toute ville, tout village, en province, etc. Puis il y a les archives de l'Assemblée nationale en soi, et qui sont là plutôt donc écrites par des gens qui étaient donc devenus des députés.
Oui, mais c'était des députés qui c'était pas, comme on peut l'imaginer aujourd'hui, forcément des gens qui faisaient une carrière politique.
Bien sûr, oui. Mais c'est quand même, pour la plupart, en tout cas pour ce qui concerne le tiers-État, beaucoup de gens qui étaient quand même assez habitués à la parole, à tous, mais quand même la majorité, qui étaient des gens, qui étaient des avocats, D'ailleurs, c'est ce qui a fait la force du tiers-état, c'est qu'ils avaient une habitude de parler, de défendre des idées, ce qui n'était pas forcément le cas de la noblesse. Moi, j'ai pas été surpris. J'ai été surpris plus par les cahiers de doléances, où là, il y a des choses qui arrivent de petits villages du fin fond de la France, où on, je sais pas, où il y a des demandes qui sont, d'ailleurs, on le voit dans la pièce, dans la scène du début, dans le district, où, par exemple, il y a Madame, donc Anne, qui joue ce personnage, qui, voilà, enfin qui a pas de nom, qui s'appelle Confiseuse, ouais. qui parle de sa volonté de stopper les religieuses qui font
c'est voilà. D'une drôlerie. Vous, non, oh, je vous avais pas averti. Je peux pas vous demander de nous dire deux trois phrases de cette femme qui est donc et qui a un magasin de confiserie et qui a une concurrence déloyale de la part des religieuses qui se sont mis à faire aussi des confiseries et qui lui piquent la clientèle sans payer de taxes.
Bon, voilà, des choses comme ça. D'ailleurs, c'est, je ne sais pas si ça exactement s'est tiré vraiment de...
Ah mais ça c'est voilà, réel. C'est réel. Ça c'est réel. C'est vraiment une confiseuse de l'époque qui a dit maintenant ça suffit les religieuses, ça suffit, elles nous piquent le travail alors que nous, en fait... Nous, on paye des taxes et donc on paye des ouvriers et en plus elles font vraiment de ce qu'elles font, leurs marchandises, c'est de qualité vraiment très très médiocre. Donc c'est une mauvaise image et nous et en fait on n'a plus de travail donc ça suffit maintenant, ces bonnes sœurs, c'est bon maintenant.
c'est ça qui est magnifique dans cette pièce, c'est qu'il y a la vie de tous les jours. Alors écoutez, on va en entendre un extrait. Imaginez, vous êtes je suis allée la voir deux fois à sa création et juste la veille de notre entretien dans la grande salle de Nanterre, et là vous êtes assis et des gens se lèvent, vont sur le plateau, reviennent et on entend ce genre de débat.
Mesdames, messieurs, je voudrais dire mesdames, messieurs, combien je suis choqué par tout ce que je viens d'entendre et ce à quoi je viens d'assister. Madame Lefranc, vous me décevez beaucoup. Je suis effrayé que vous ne reculiez plus devant aucun procédé pour vous faire entendre. Vos menaces à peine voilées, vos appels à la violence à l'encontre d'un député qui s'est finalement pleinement impliqué à nos côtés sont indignes de vous. Indignes de vous. Je suis aussi choqué de la manière dont vous en venez à banaliser la violence et la sauvagerie qui sont en train de se propager actuellement dans notre pays. Et peu importe, pardon monsieur Gigard, que vous soyez ou non une hypocrite à titre personnel, ça me regarde pas. Vous seriez pas la première ni la dernière, certainement, non. Ce sont vos idées, madame Lefranc, qui sont insupportables. Parce qu'irresponsables. Vous êtes, madame Lefranc, enfermée dans une idéologie. Et vous ne prenez pas en compte la réalité scandaleuse que nous avons devant les yeux.
Arrêtez votre démagogie,
vous mettez le peuple sur un autel, comme l'a été, il est vrai, la monarchie. Mais vous voulez passer, on dirait, d'une dictature monarchique à une dictature du peuple.
Alors bon, on les quitte, on a envie d'y rester. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on connaît l'histoire. Ce sont des thèmes, il y a tous les thèmes, c'est ça qui est extraordinaire. La violence, la peur, la difficulté de s'engager, mais finalement il faut le faire, et puis finalement on le fait et on vit des heures extraordinaires. La question du pouvoir, de la représentativité, l'évolution des personnages, ils viennent du quartier, et puis parce qu'ils ont un costume. Alors là, la mise en scène est extraordinaire. Comment le costume, comment la posture, comment refuser à un moment donné, vous, David Cicelli, enfin votre personnage, va refuser de serrer la main à un moment donné à quelqu'un du peuple, on voit de quel côté il est, les déplacements, les corps, qui est assis, qui est debout, des bagarres, il y en a sans arrêt, parce qu'on se battait à l'époque, bon, enfin il n'y a pas si longtemps, à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, maintenant, il faut être super, à peine on dit un petit truc, c'est un scandale, mais là, à l'époque, ça castagne hein, sur scène. Vous devez aimer ça, j'espère, parce que vous êtes au cœur de plein de bagarres. Là. D'ailleurs, Madame Lefranc, c'est vous qu'elle est quelle menace. Vous aimez ça?
Oui,
j'aime bien,
j'aime bien. Après, ça dépend de la chaleur de la salle.
Ah oui,
c'est
chaud. Ouais.
Non, j'aime bien ça. Après, c'est très réglé. On fait très attention hein, parce qu'on peut quand même se faire mal très vite avec ça.
Vous êtes un homme du centre. Enfin, vous faites plusieurs rôles chacun, hein, mais le rôle principal que vous avez, c'est cet homme qui est au centre, un Bayrou, on dirait, je sais pas quoi. Enfin non, parce qu'on va découvrir. Au début, on pense ça. En fait, il sait où il est. Mais d'ailleurs, les gens du centre, ils savent où ils sont. sont, hein. Leur camp, il est clair. C'est pour ça que je dis, finalement, c'est assez actuel. Au fur et à mesure, on comprend que... Mais vous faites semblant de vouloir concilier, être aimable, s'écouter, faire le lien. Et en fait, à un moment donné, c'est là la mise en scène, très physique aussi, il y a les deux camps, hein, les nobles et puis le tiers-état, le peuple, et chacun est assis dans son camp, face à face sur des chaises, et vous êtes au milieu essayant de faire le truc, et chaque camp va vous pousser dans l'autre. Et vous êtes souvent comme ça mis à partir.
Oui, c'est vrai que c'est un personnage qui... je pense qu'il est, il est très sincère. Enfin, en tout cas, moi, je l'aborde avec sincérité, sinon ça serait, pas très intéressant. C'est un personnage qui défend le roi, qui défend la monarchie, qui est un député du tiers-état, qui veut du changement, c'est sûr. Je pense qu'il défend la liberté, etc. Mais qui n'envisage pas une seconde, comme c'était le cas à cette époque, un pays sans un roi.
D'ailleurs, on va voir que c'est la contradiction de beaucoup de gens. Mmh. Vous-même, Anne Rodger, quand vous jouez le rôle d'une citoyenne de base, hein, même pas du tiers-état, enfin, parce qu'il y a les comités. Alors, il y a trois lieux à peu près. Il y a l'Assemblée nationale, il y a la salle du... Il y a les tiers-états, des états généraux, la salle des états généraux. Et puis, il y a aussi l'intérieur. Il va y avoir le Louvre, mais les appartements privés du roi. Hein. Vous jouez la reine. Alors là, reine punk quand même, enfin, presque quoi. C'était difficile d'incarner Marie-Antoinette et vous le faites avec une des choses assez simples, mais où on sent qu'on va
être paumée. En fait, elle est tellement attendue, cette reine, quand on l'incarne. Elle est attendue.
Parce justement, vous la rendez très humaine.
J'ai essayé de la rendre simple, de partir de moi et puis. Elle est toujours dans des situations, en fait, je crois que ce qui était important, c'est de pas jamais faire de gros plans sur elle, mais ouais. Elle est toujours dans des situations en train de se dérouler. Et puis, voilà, c'est une femme avec, mais c'est la femme du roi, donc c'est ça, mais au fond, c'est une femme assez ordinaire, assez simple, quoi.
Ouais, ouais.
Donc, ça, c'était intéressant de l'apprendre comme ça, de...
Avec sa volonté parfois de pouvoir, mais qui marche pas. Ça marche pas. Ouais. Quand elle veut virer le Premier ministre, ça marche pas.
Oui, parce qu'en même temps, quand elle veut le virer, là, c'est qu'aussi, elle vient de perdre son enfant, donc elle est aussi dans une forme de folie, comme ça. En même temps, elle a une connaissance très... elle connaissait bien, Marie-Antoinette, tout ce qui se passait, quoi, et... Elle avait aussi, c'était aussi une femme qui apparemment influençait son mari.
France Culture, le temps buissonnier, Aline Payet.
Vous jouez, Anne Rodger, des rôles, notamment vous jouez aussi le rôle d'une femme.
Madame Camus,
oui,
la députée.
Elle est du côté des nobles ou du tiers-état?
Ah non, elle est du tiers-état.
Elle est du tiers-état.
Mais en fait, elle est conservatrice.
Mais elle est très conservatrice. Elle est très, très, très réac. Hein,
c'est-à-dire qu'elle est exactement dans la même famille que
vous.
Que moi.
Voilà. Et comment vivez-vous ce moment qui paraît exaltant quand même de ces débats où vous êtes tous physiquement engagés jusqu'au bout, où on a envie d'être avec vous, nous, public, puisque vous êtes près de nous, de vous toucher, de vous applaudir. Ça arrive. Au fait, ça, que le public se laisse aller, emporter.
Oui, c'est arrivé, même des fois, c'est arrivé que ça parle, que ça réagisse.
Moi, je me suis retenue, parce que plein de fois.
Mais c'est ça, puisqu'on essaie de rendre présent le passé, et donc le présent se déroule, on découvre des événements qu'on croit connaître. Donc,
et puis des débats toujours actuels, la violence, la représentativité, jusqu'où on va, l'excès, jusqu'à tuer des gens, oui, pourquoi pas, dire Madame Lefranc de temps en temps. Il y a des formules magnifiques, enfermées, emprisonnées dans leur misère. Alors, je vous vois, Anne de Hamzaga, vous n'êtes pas sur scène, vous faites en sorte qu'une pièce avec tant de gens sur scène, combien au total sans tri?
Sur scène, 14 comédiens,
ouais.
7 techniciens,
Et nos amis les forces vives qui sont 15. Ouais, donc ça fait une quarantaine de personnes.
Et vous avez l'air d'adorer cette pièce.
J'adore cette pièce, j'adore.
Qu'est-ce que vous y trouvez, vous? Alors, bon, essayons d'oublier que vous êtes co-directrice de la compagnie.
Ça fait plus de 15, 16 ans que je travaille avec Joël Pommera. Donc je suis passionnée par son travail, évidemment, et heureusement pour moi.
Oui.
Ce que je pourrais dire, c'est que lorsqu'il nous a parlé de ce projet, il nous a dit qu'il allait faire sa propre révolution. Et je pense que il a tenu son rêve ou son engagement, je sais pas comment dire. Et on l'a accompagné dans cette épopée, parce qu'il s'agit de ça. C'est 2 ans de travail pour trouver les partenaires, les finances, les lieux de répétition. Voilà, et lui faire confiance sur la forme qu'il allait donner à ce spectacle, comme l'a dit Anne, sur les idées. Parce que je pense que au-delà de tout, et même au-delà de la Révolution française, je pense que Joël Pommera a fait un spectacle sur l'idéologie et sur les idées, ouais, et sur le politique. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup parce que, bah, personnellement, je sais pas si je dois le dire, mais en tout cas, je suis une femme engagée qui a des convictions. Et ça m'intéressait énormément de voir comment Joël Pommera allait traiter ça, la question de l'engagement, la question de la politique, du politique et des idées. Et je suis passionnée parce que c'est un spectacle qui nous concerne tous, quel que soit notre bord, et surtout c'est un spectacle qui nous concerne tous car il est à la fois atemporel, intemporel, j'en sais rien, je sais pas comment dire ça. Anne parlait de Marie-Antoinette. C'est pas simplement Marie-Antoinette, le roi Louis XVI, c'est pas simplement le roi Louis XVI, c'est toutes les figures du pouvoir, quelle que soit l'époque. Et je pense que Joël Pommera a fait vraiment, avec ses comédiens, un spectacle de tout temps.
Et je dois dire qu'il nous trouble, parce qu'il y a des moments où on est prêt à être convaincu par quelqu'un d'autre, et pourtant, moi, je crois avoir des idées assez chevillées au corps. Par moments, je doute, ou pas longtemps, mais je doute. Enfin, c'est fort, quand même. Alors, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'ateliers, on n'a pas le temps là, c'est dommage, mais il y a un cahier, un dossier pédagogique qui est fait pour toute la tournée que vous retrouverez sur le site. On essaiera de mettre les dates de la tournée pour retrouver cette pièce qui va se balader dans toute la France. Et franchement, ne la ratez pas. Les adolescents, il y en avait beaucoup hier soir dans la représentation, ils sont passionnés. Les ateliers se font dans les villes où vous passez. Vous prenez aussi des gens qui peuvent participer au spectacle, on dira pas comment. Mais voilà, donc c'est un spectacle qui est ancré dans la réalité d'aujourd'hui et des territoires où vous passez. Et heureusement, parce que sinon, ça serait que du théâtre, ce serait déjà pas mal. Mais là, il y a une cohérence avec le fond, la forme et la manière dont vous le transportez. Élodie Chaumette, c'est à vous.
Et alors moi aussi, je vais parler de la Révolution, avec un roman qui débute en 1789, mais depuis des terres beaucoup plus éloignées, qui sont celles de la Guadeloupe. C'est un roman de Serge Rubin, destiné, je dirais, aux grands-enfants ou aux jeunes adolescents, mais ça peut se lire plus tard. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, et qui s'intitule « La Révolution dans la peau ». Donc, il est écrit à la première personne, et il nous donne à entendre la voix de une certaine Lucille, qui est une jeune femme, fille d'un propriétaire terrien blanc qui cultive la canne à sucre et maltraite, comme c'est normal de le faire à l'époque, ses esclaves. Alors, j'utilise le terme « normal » à dessein, puisque l'héroïne du roman défend cette vision-là de la réalité.
Il y a le code noir qui leur donne le droit, qui a institué dans le droit.
En tout cas, au début du roman, parce que, bien entendu, elle va changer. Et donc, en fille d'esclavagiste, elle tient des propos qui nous donnent envie de hurler. Mais c'est assez intéressant à lire, du coup, parce que, évidemment, depuis notre position de lecteur en 2016 et connaissant l'histoire de l'esclavage, on attend la suite. Ça donne, en termes de récit, ça donne un suspense narratif très fort. Donc bon, je vous lis un passage pour vous donner une idée, quand même. « Les nègres sont issus d'une race très inférieure à la nôtre. À l'état sauvage, ils s'entretuent ou paraissent dans une impudente insouciance. Nous leur rendons service en les domestiquant. » Grâce au travail que nous leur imposons, ils ont une vie plus civilisée et mangent mieux que dans leur pays d'origine.
Oui, ils vont peut-être gagner une âme en plus.
Ça serait bien. Donc effectivement, Lucille commence mal, elle ne gagne pas notre sympathie tout de suite. Mais ce qui va lui arriver, en fait, va l'amener à s'émanciper. Et c'est sa trajectoire à elle, à la fois de femme et finalement, alors je révèle quand même le moment de bascule du roman, c'est qu'elle va apprendre qu'en fait, elle est la fille de sa nourrice et non pas la fille de sa mère. Et que bien qu'elle
soit...
Et donc, elle est métisse. Et donc ça va être terrible pour elle. Elle apprend ça juste après son mariage, sur le bateau qui l'emmène précisément en métropole pour aller défendre contre les révolutionnaires des thèses anti-abolitionnistes. Et donc tout commence à ce moment-là et tout se noue à ce moment-là dans le roman.
Ouais, et c'est peut-être le seul thème qu'il n'y a pas dans la pièce, ça ira. Hein, celui-là n'y est pas.
Donc c'est La Révolution dans la peau de Serge Rubin aux éditions Talents Hauts. J'ai oublié de préciser, enfin c'est pas très important, mais parce que c'est le lien avec l'autre livre, que ce roman est soutenu par Amnesty International.
Et bah, c'est important.
Pardon. C'est le cas aussi pour le second que je vais vous présenter, qui s'intitule Le Grand Incendie, aux éditions des Éléphants, et qui est un album, là cette fois, un assez grand album, pour des enfants, je dirais, à partir de 4 ou 5 ans, sur le thème des autodafés. Et alors c'est un album écrit comme un conte, il y a très peu de texte, et l'histoire est extrêmement simple. C'est l'histoire d'un enfant qui vit dans un pays, dans une contrée dans laquelle il n'y a aucun livre, et qui un jour grandit et aperçoit au-delà de la montagne une fumée qui s'échappe du palais. Et donc il va voir de quoi il s'agit et il découvre qu'on brûle tous les livres et il réussit à sauver parmi les braises une page et dont il va se mettre immédiatement à recopier le texte sur le mur blanc du palais du sultan avec le charbon donc issu des livres brûlés. Tout le monde va l'imiter et parce que cette foule appuie sur le mur en écrivant les éclats de textes qui ont été repêchés parmi les cendres, le mur va s'écrouler et les histoires recommencent. Très beau conte, illustré par Barou, de manière extrêmement juste, avec une technique mixte de peinture, avec des fonds qui sont très clairs et puis recouverts avec des traces de pinceau très larges au début et qui progressivement s'éclaircissent et laissent de plus en plus de place à une certaine lumière, d'abord celle du feu et puis celle des murs blancs du palais sur lesquels apparaissent progressivement de plus en plus les de textes. Mots et de textes.
Magnifique, hein, voilà, hein, je vous vois intéressé. Nous sommes tous embarqués dans la même histoire. Ça avance lentement parfois. Et d'ailleurs, il y a une très belle phrase là-dessus sur le peuple est impatient, se lamentent ceux qui n'aiment pas la violence. Et je ne sais plus qui dans la pièce, parce que je ne sais pas combien il y a de personnages, mais au total, mais plus de 30, enfin en tout cas pas mal, dit le peuple, pour moi, est patient. Parce qu'il a longtemps supporté...
C'est le franc.
Madame Lefranc, il a longtemps supporté d'être emmuré dans la pauvreté. Voilà, c'était ça, hein, j'ai pris note. Alors oui, il y a quelques débordements. Monsieur Giga, vous avez intérêt à ce que rien ne change. Vous êtes un mou et un tiède. C'est pas très sympa, mais alors quel comédien, ça. Parce que pour jouer les mous et les tièdes et tenir la scène comme on l'a tenue d'un bout à l'autre, il faut être un sacré comédien. Et bien sûr, dites-le à vos camarades, quoi, parce qu'ils sont tous magnifiques. Et à Joël, merci de nous avoir donné ce spectacle qui nous permet de réfléchir. Et je peux dire que je l'ai vu donc à sa création est là. Et entre-temps, il y a eu Nuit debout, il y a eu toutes les manifestations, toute la violence de rue, la violence d'État, je parle de celle-là, moi, de la police, de la justice. Et du coup, je l'ai entendu encore autrement, votre spectacle, ce qui veut bien dire qu'il est bien vivant. Voilà. Merci à tous d'être passés dans ce studio. Belle tournée sur toute la France. Et nous allons quitter les chemins buissonniers, nous, pour laisser la place à la suite des programmes sur France Culture, le premier journal. Mais vous pouvez retrouver notre émission Le Temps Buissonnier sur notre site franceculture.fr. On vous donnera les moyens de les trouver en tournée. Le Temps Buissonnier, c'est toute une équipe. On est moins nombreux que dans Ça ira et dans la compagnie de Joël Pommerat, mais quand même, Aline Payet, Laetitia Coya, Nico Mier, Elodie Chaumette, et à la technique aujourd'hui, Édouard Rubinstein. Bonne journée à tous.